Studio Tamani, voici les informations en français.
8 heures à Bla, même heure dans la cité des Askia. Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de Studio Tamani au sommaire. L'hivernage s'installe au Mali et dans certaines localités du pays, l'inondation a causé d'importants dégâts matériels. Les détails à suivre dans ce journal. Rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Les partis politiques et la Commission ont eu hier une séance de réflexion autour du texte. À cause de l'insécurité, plus de 2000 écoles sont fermées au Mali et au Burkina Faso. Les acteurs de l'éducation des deux pays partagent les expériences en vue de trouver des solutions alternatives. Le développement à suivre dans un instant avec Adama Modouhaidara. L'hivernage, une période de forte inondation au Mali. La ville de Gao et celle de Bla ont enregistré cette semaine des dégâts matériels. Si à Gao, elle n'a touché que le stade Kassé Keïta, les pertes sont importantes à Bla, dans la région de Sain. Plusieurs personnes ont dû abandonner leur domicile à cause des eaux. Toutefois, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Le point avec Moumine Sendebou.
Des maisons effondrées, des champs dévastés et même des routes coupées, c'est le bilan d'une forte pluie à Bla et environ. Le cercle a enregistré plus de 100 mm de pluviométrie. Sur place, les autorités locales sont mobilisées pour évacuer les sinistrés. Mamadou Samake, maire de la commune urbaine de Bla, explique ces sinistres par un manque de collecteurs.
Dieu merci, à ce stade, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et des ONG nous aident. Il y a des canaux niveau ici, mais la localité manque de grands collecteurs, ce qui fait que si l'eau atteint un certain niveau, l'évacuation est difficile.
Dans la nuit du dimanche à lundi 22 juillet 2024, la ville de Gao a aussi enregistré une forte pluie. Depuis lors, le stade à Kassé Keïta est envahi d'eau. Une équipe de la protection civile s'est rendue sur le lieu, mais elle n'a pas pu accomplir sa mission. C'est ce que laisse entendre le lieutenant-colonel Amamadou Keïta, directeur régional de la protection civile des Gao.
La protection civile, une fois alertée, nous avons mobilisé des motopompes et une équipe d'intervention. Mais malheureusement, arrivé sur le terrain, la population s'est plainte. On est resté de 6 heures du matin jusqu'à 15 heures. Je vous informe aussi que les caniveaux à ce niveau sont bouchés.
Chaque année, les cas d'inondation sont récurrents à travers le pays. En croire à des leaders de la société, les responsabilités sont partagées. Il faut une prise de conscience, recommande-t-il.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La série de rencontres avec les forces vives de la nation et la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale se poursuivent. Les formations partis politiques ont été invitées à la table des échanges ce mardi. On suit avec Lale Tangara.
Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission, a rappelé l'importance de la participation des partis politiques au processus d'élaboration de la charte. Il a donné l'assurance que les partis ne resteront pas en marge de cette rédaction.
Nous pensons que les partis ne peuvent pas rester en marge de l'initiative qui vise l'avènement d'une société juste et cohérente où les citoyens pensent et agissent selon des principes égalitaires pour tous. En tant qu'acteurs politiques, vous êtes un des principaux piliers de l'éducation des masses et donc un complément de toutes les institutions chargées de formation et d'enseignement.
Pour les représentants des partis politiques qui ont pris part à cette rencontre, ce processus doit impliquer toutes les forces vives de la nation.
Il y a plus de 100 et quelques partis qui ont été représentés pour parler de la paix, de la réconciliation.
Nous voulons la paix, nous voulons des chartes, mais la paix ne se construit pas sous des difficultés. Les gens n'arrivent pas à cultiver chez nous dans le pays d'Europe. Comment on peut parler de la paix si eux, ils ne sont pas construits?
Mais pour conquérir un pouvoir et l'exercer, il faut avoir un pays, un État. Un des rôles aussi des partis politiques, c'est de conquérir à la stabilité de l'État.
Des questionnaires ont été partagés avec les représentants des partis politiques qui visent à mieux cerner les attentes sur les différents contours de la charte.
Un des titres de ce journal, 1500 écoles fermées au Mali et plus de 1000 écoles fermées au Burkina Faso à cause de l'insécurité. L'information a été donnée hier mardi lors d'un atelier sur le partage d'expériences du comité de déclaration sur la sécurité de Save Children. Selon les acteurs de l'éducation des deux pays, cette session vise à faciliter l'accès à l'éducation aux enfants vivant dans les zones en proie à l'insécurité. Le point avec Aboubakrine Agga Mohamed Niatara.
Lors de ces échanges sur la situation des écoles fermées au Mali et au Burkina Faso, la Direction nationale de l'enseignement fondamental a déclaré que plusieurs efforts ont été faits pour faciliter l'accès à l'éducation dans ces zones. Mamadou Kanté, adjoint au directeur national de l'enseignement fondamental.
Nous nous donnons les moyens de faire en sorte que les écoles puissent continuer quoi qu'advienne. Et c'est pourquoi la communauté internationale a élaboré un document qu'on appelle Déclaration sur la sécurité dans les écoles. Les lignes directrices, il y a en tout 6 lignes. Et chaque ligne s'adresse à une cible.
Des propos confirmés par les autorités scolaires du Burkina Faso, représentés par Zombré Bonnet-Paulin, secrétaire technique à l'éducation en situation d'urgence au Burkina Faso. Ce dernier dit chercher à acquérir davantage d'expérience auprès des responsables scolaires maliens.
Nous sommes venus dans la République du Mali pour nous inspirer de l'expérience malienne. Les écoles, dans un premier temps, servaient de refuge aux personnes déplacées internes. Il y a aussi les groupes armés qui en ont fait aussi leur point de repère.
Le Parlement des enfants présents à la cérémonie a exprimé son impatience à voir la mise en application de ce programme dans les zones les plus touchées par l'insécurité.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Le dossier de la semaine s'intéresse à la géomancie, une méthode divinatoire ancestrale. Elle repose sur l'utilisation du sable ou d'un papier comme support pour tracer des figures et des lignes spécifiques. Ces signes sont interprétés pour révéler des messages des événements passés ou futurs. Une pratique héritée de générations passées continue d'influencer de nombreux aspects de la vie quotidienne de certains Maliens. C'est un dossier signé Ramatou Haidara.
La géomancie, cet art millénaire, puise ses racines des cultures anciennes. Bien que ses figures et ses méthodes de lecture ont évolué au fil du temps, l'essence de la pratique est restée intacte selon le traditionnaliste Marie Djenyari.
La géomancie vient de très très loin. C'est un prophète qui a été formé par l'ange Gabriel, selon nos informations. Quand il a été bien formé, l'ange même a été retrouvé par les géomanciens. Dans la société malienne, son rôle est multiple. C'est une science universelle.
Nous sommes à Sirakoro. Au cœur de ce quartier, nous avons rencontré Tchekoura Traoré, dit Semana Tchekoura, un maître géomancien. Formé par son père depuis l'âge de 5 ans, aujourd'hui à 59 ans, il dit avoir formé des centaines de jeunes. Pour lui, la géomancie n'est pas seulement un art, mais aussi une responsabilité.
Un géomancien ne peut pas être paresseux. Un bon géomancien se lève tôt pour vérifier si le jour à venir apporte des dangers pour sa communauté. Il effectue alors les sacrifices nécessaires ou en informe un sage pour prendre les mesures appropriées.
De nombreux jeunes s'intéressent à cette science. Parmi eux, Alfousseini Touré.
Je suis en train d'apprendre la géomancie et c'est depuis tout petit. Mes grands frères et petits frères l'apprennent aussi. C'est ce que nous sommes venus trouver chez nous.
Comment la population perçoit donc cette pratique? Certains y voient une tradition culturelle riche, tandis que d'autres la perçoivent comme superstitieuse et non scientifique.
Je crois en la géomancie. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut régler avec ça.
Je ne crois pas en cette pratique. C'est par coïncidence que ce qu'ils vous disent se réalise. Ils peuvent vous donner des signes qui correspondent à quelqu'un que vous connaissez. Et cela peut créer des problèmes entre vous.
J'ai entendu parler de la géomancie, mais je n'ai jamais consulté des géomanciens.
La géomancie au Mali est bien plus qu'une simple pratique divinatoire. Elle représente un héritage culturel riche et une source de sagesse ancestrale. Selon les traditionalistes, elle est le lien avec les traditions et les croyances profondes du peuple malien.
Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, la version Bambara.
parents, papa et maman, ce message vous est adressé.
Vous devez avoir les réflexes de déclarer votre enfant dès sa naissance. Votre enfant doit avoir un acte de naissance.
Déclarer un enfant à la naissance est un acte de grande importance et un geste de bon citoyen.
Déclarer un enfant à la naissance est le premier des droits de cet enfant, puisque c'est ce droit qui ouvre l'accès à tous les autres.
Sans acte de naissance, votre enfant n'existe pas devant la loi.
La délivrance d'un acte de naissance est gratuite à la mairie.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas aller à l'école plus tard.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas bénéficier des programmes de santé. Il sera exclu de bien d'autres avantages encore.
Sachez également que les parents ont un délai maximum de 1 mois, c'est-à-dire 30 jours pour déclarer la naissance de leur enfant.
Passé ce délai, il faudra recourir à un jugement supplétif qui peut prendre plus de temps et d'argent.
Déclarer son enfant à la naissance, c'est lui donner un bon départ dans la vie.
Ceci est un message de la Direction nationale de l'État civil en partenariat avec l'UNICEF grâce au soutien financier de l'Agence italienne pour la coopération au développement.
Le magazine Toutes les femmes du Mali parle aujourd'hui des relations entre femmes dans nos sociétés qui ne finissent pas généralement en de bons termes. C'est une réalisation de Lale Tangara.
Beaucoup disent qu'il est difficile que les femmes s'entendent et soient amies, car à long terme, elles se déchirent. Sokona Koulibaly, femme au foyer, nous raconte sa mésaventure avec ses voisines quand elle vivait en colocation.
Les difficultés que j'ai vécues en colocation ici à Kita, je le mets sous le coup de la méchanceté. Tout le temps, c'était de la mésentente, des conflits à n'en point finir. Finalement, nous avons toutes les deux décidé de déménager.
Ne dit-on pas que les femmes font l'amitié les yeux dans yeux et dans certains cas, cette relation est matérialisée par le partage de tout, même la vie privée. De l'avis de certaines femmes, cette situation par la suite entraîne la jalousie qui naît une rivalité injustifiée.
Il y a des femmes qui se partagent tout dans la vie, même leur vie privée. Du coup, la relation s'arrête. Ça se dit au manque de confiance.
Les mésententes, je les ampute à la jalousie ou à l'envie.
La jalousie reste la seule cause des mésententes à mon avis.
Par le passé, nous les femmes cultivons le même champ dans la joie et nous avions une présidente. Témoigne Oumu Guindo, une femme âgée à Bankas, pour dire qu'à une époque, les femmes vivaient dans l'harmonie, même s'ils n'avaient pas besoin de grand-chose pour vivre.
Avant, il y avait l'entente entre les femmes, elles collaboraient en toute harmonie. De nos jours, les unes et les autres sont instruites, mais elles ont du mal à s'entendre. La solution ne viendra de nulle part, il faut l'entendre.
Les relations féminines rencontrent plus de difficultés que tout autre, révèle l'enseignant-chercheur Fodier Tandjougoura.
L'expérience au quotidien a démontré que parmi les relations sociales qui rencontrent le plus d'incidents et de frustrations sociales figurent les relations entre les femmes. D'autant plus que ces relations sont basées assez souvent sur une forme de comparaison quant à la possession des objets de luxe que ces femmes font entre elles.
Les sociologues ajoutent qu'au lieu de maintenir la sororité, ces relations débordent souvent sur des futilités.
Finalement, les relations entre les femmes sont beaucoup plus sujettes à des frustrations et à beaucoup de fluctuations parce que ce sont des relations qui ne se limitent pas à l'essentiel, mais qui couvrent beaucoup d'autres domaines et donc finalement, ces relations dans des formes de difficultés qui relèvent de la nature même des femmes.
Pour Dr Faisal Daouda Touré, psychologue au CCRF de Gao, ces frustrations peuvent être facteurs de dépression chez certaines femmes.
Quand ça se complique, ça va devenir la dépression. Ça peut, la personne a développé ce qu'on appelle une dépression mélancolique. La personne va se culpabiliser, la personne va s'auto-accuser, la personne va penser souvent même à beaucoup de choses.
Alors, esprit de sororité, où es-tu? Les observateurs estiment que ce problème impacte tous les niveaux des cercles de femmes, car ils estiment que même dans le monde des affaires, les collaboratrices et leaders ont du mal à faire l'étau autour de l'essentiel.